Séoul, au jour le jour. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul, au jour le jour. C'est la haute saison des départs en vacances. Face à l'afflux de voyageurs, l'aéroport international d'Incheon a mis en place un nouveau système permettant d'estimer à l'avance le temps nécessaire pour passer les contrôles de sécurité et d'immigration. L'aéroport d'Incheon a lancé le 1er août, à titre expérimental, un nouveau service d'affichage du temps d'attente estimé par zone d'embarquement. Des grands écrans installés au-dessus de chaque point de départ, au troisième étage du terminal, affichent le temps qu'il faut, en minutes, pour passer les contrôles de sécurité et l'immigration. Le terminal 1 compte 4 zones d'embarquement contre 2 pour le terminal 2. Grâce à des capteurs utilisant les technologies de l'Internet des objets, les durées sont calculés en temps réel, ce qui permettra d'éviter que trop de monde se concentre au même endroit. Le service est pour l'instant disponible au terminal 1 avant d'être étendu au terminal 2. Autre nouveauté, les passagers peuvent désormais savoir combien de temps il leur faudra pour rejoindre leur porte d'embarquement après les contrôles. Sur les écrans d'information des vols, qui montrent les numéros de vol et les portes, s'affiche maintenant aussi le temps de marche moyen jusqu'à chaque porte, basé sur une allure normale. Cela permet même aux personnes peu habituées à l'aéroport de mieux prévoir leur trajet et gérer leur temps. Ce service est disponible dans les deux terminaux. Le président de la société exploitant l'aéroport, Lee Hak-jae, a déclaré que ce système d'estimation visait à réduire les désagréments liés à l'encombrement au contrôle de départ, tout en permettant aux passagers de profiter plus sereinement de leur passage à l'aéroport. Il a également précisé que des services d'intelligence centrés sur les passagers dans le cadre de la transition numérique, continueront à être développés. La chaleur étouffante persiste en Corée du Sud. Pour tenter de se rafraîchir, de nombreux Coréens ont recours à de petits ventilateurs portables appelés Sonpungi, un mot-valise combinant son, la main, et Sonpungi, le ventilateur. Dans la rue ou dans les transports en commun, il n'est pas rare de croiser des passants se rafraîchissant le visage avec ces appareils. Toutefois, sur les réseaux sociaux, certains internautes ont mis en garde contre les risques pour la santé liés à leur utilisation lors de la canicule. Selon ces avertissements, les utiliser lorsque la température dépasse les 35 degrés pourrait aggraver le stress thermique du corps et entraîner des insolations ou des coups de chaleur. Alors, ces craintes sont-elles fondées? Les mini-ventilateurs sont-ils réellement dangereux en période de canicule? Le professeur Lee Soo-gyo, spécialiste en médecine d'urgence à l'hôpital universitaire Korea, souligne qu'il n'existe pas encore d'études spécifiques sur les effets de ces petits appareils. Néanmoins, il estime que l'on peut s'appuyer sur les recherches déjà menées concernant les ventilateurs classiques, puisque leur fonctionnement est similaire. Sur cette base, selon un guide datant de 2004 du CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, leur usage est déconseillé lorsque la température ambiante dépasse les 35 degrés. Et c'est cette recommandation qui a été largement partagée sur Internet. Toutefois, des études plus récentes nuance cette position. En dessous de 40 degrés, leur effet, même dirigé vers le corps, n'aurait pas d'impact significatif sur la température corporelle. Les ventilateurs transmettent effectivement de l'air chaud au corps, mais tant que la température ambiante reste sous les 40 degrés, cela ne suffit pas à augmenter dangereusement la température corporelle. Faut-il alors utiliser un ventilateur ou l'éviter? Le professeur Lee explique. Si vous avez l'impression d'être plus au frais grâce à un mini-ventilateur, il n'y a pas de raison de vous en priver. Mais d'un point de vue médical, il n'y a pas de réel effet rafraîchissant ni de capacité à prévenir un coup de chaleur. En résumé, les ventilateurs portables ne sont pas dangereux en soi sous les 40 degrés, même s'ils ne suffisent pas toujours à rafraîchir efficacement. Alors, pour faire face aux fortes chaleurs, n'oubliez pas les gestes essentiels. Buvez de l'eau régulièrement et cherchez l'ombre autant que possible. Votre chien a besoin de sortir, mais avec cette chaleur, vous hésitez à quitter la maison. Et si vous pouviez vous promener dans un musée avec lui? À Gwangju, c'est désormais possible. Du 5 au 14 août, la ville organise une semaine spéciale intitulée « Sortie culturelle avec les animaux de compagnie ». Cet événement permet aux citoyens de profiter de plusieurs espaces tout en étant accompagnés de leurs compagnons à quatre pattes. Quatre musées ouvrent exceptionnellement leurs portes aux maîtres et à leurs chiens. Le musée d'art de Gwangju, le musée Hajongung, le Gwangju Media Art Platform et la Sochon Art Factory. Pendant cette période, les visiteurs accompagnés de chiens pourront accéder gratuitement aux expositions proposées par ces établissements. Au musée d'art en particulier, une activité originale est proposée. Les visiteurs peuvent prendre des photos instantanées avec leur chien dans une cabine photo baptisée « Quatre cadres d'une vie de chien » Kyonseng Nekot, en référence à une cabine photo très populaire en Corée où l'on prend quatre petites photos consécutives pour garder un souvenir amusant entre amis. Attention, pour des raisons de sécurité, l'usage d'une poussette ou d'une caisse de transport est obligatoire pour tous les chiens. Les chiens de grande taille, agressifs ou à comportement problématique ne sont pas autorisés. Derrière cette initiative, Gwangju poursuit un objectif plus large, celui de devenir une ville amie des animaux d'ici 2028. Face à l'augmentation du nombre de foyers avec animaux de compagnie, la municipalité s'efforce de créer un environnement plus accueillant pour eux. En 2024, elle a lancé un plan global visant à mettre en place un système d'enregistrement, à promouvoir l'adoption des animaux abandonnés et à construire des infrastructures de bien-être animal. Zhu Jie-hee, directrice du département de l'économie et de la création d'entreprises à la mairie, déclare qu'à travers cet événement, elle espère élargir les espaces de vie partagés avec les animaux de compagnie. Elle affirme que la municipalité continuera à soutenir les initiatives qui favorisent la cohabitation harmonieuse entre humains et animaux. Maintenant, partageons avec vous un message de nos auditeurs. Jacques Augustin nous a écrit à propos d'un article de notre rubrique Focus Asie qui racontait l'histoire d'un couple philippin s'étant marié dans une église inondée à la suite d'un typhon. Il a écrit « La mariée n'hésita pas à avancer les pieds dans l'eau lors de son mariage sous les applaudissements des invités ». Qui dit mieux? Il a ajouté « J'espère vous retrouver rapidement sur les ondes de KBS World Radio et en vous souhaitant à toutes et tous une fort belle journée. Portez-vous bien !» Merci pour ce message chaleureux et pour avoir pris le temps de nous partager votre réaction. Prenez bien soin de vous. Avant de passer à la prochaine nouvelle, écoutons ensemble « Will You Marry Me ?» de Isengi.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Vous écoutez Séoul au jour le jour et l'édition de ce lundi 4 août 2025 vous est présentée par Elodie Stanislas. Au pays du matin clair, les enfants nés de parents sud-coréens doivent porter un prénom de 5 syllabes maximum. Avec le nom de famille, le total ne peut pas dépasser 6. Cette règle remonte à 1993. Selon les archives judiciaires, elle a été introduite en raison des désagréments causés par les noms trop longs, bien que la nature exacte de ces problèmes ne soit pas précisée. La Cour suprême avait alors instauré une directive interne refusant les déclarations de naissance comportant plus de 5 syllabes. La limitation est aussi liée à l'information des registres. À partir de 1990, le nombre de caractères chinois autorisés pour les prénoms a été restreint à 2731 pour des raisons techniques. Désormais, la limite est fixée à 9389. La popularité croissante des prénoms en coréen pur à la fin des années 1980 a également contribué à l'apparition de noms plus longs. Contrairement aux caractères chinois, ces prénoms ne permettent pas de condenser le sens, ce qui les rend naturellement plus longs. Avant la mise en place de ces restrictions, le prénom le plus long connu comptait 17 syllabes. 하늘 별님 구름 해님보다 사랑스러우리. Ce qui signifie en coréen plus adorable que le ciel, les étoiles, les nuages et le soleil. Initialement, seules les personnes nées de deux parents coréens étaient concernées par cette règle. Depuis 1998, les enfants nés d'un père étranger et d'une mère coréenne peuvent être enregistrés sous un nom étranger sans contrainte de longueur. Depuis peu, cette exemption s'applique aussi dans le cas inverse. En examinant les prénoms les plus fréquemment enregistrés tous les 10 ans, on constate que chez les garçons, Yongsu, Yongho, Yongshik et Yongchol sont restés populaires en 1948, 1958 et 1968. Chez les filles, avant 1978, on observait une forte concentration de prénoms se terminant par « ja ». Suk ou Hi. Parmi eux, des noms comme Sunja, Yungja reflètent l'influence persistante du suffixe japonais ko, vestige de la période coloniale. Les tendances toutefois ont évolué. Après 2000, les prénoms neutres comme Yujin, Jiho se sont popularisés. Entre 2023 et 2024, les prénoms masculins les plus donnés sont Ijun, Doyun, Hajun, tandis que Soa, Iso ou Hayun dominent chez les filles. Le film sud-coréen A Normal Family a franchi la barre des 200 000 spectateurs en France. Lancé dans l'Hexagone le 11 juin pour la première fois en Europe, il a totalisé 210 041 entrées le 30 juillet dernier. Il s'agit du meilleur score enregistré pour une œuvre sud-coréenne sortie en France depuis 2023, ce qui suscite de grandes attentes pour sa diffusion prochaine dans d'autres pays européens. La presse locale a salué ce thriller psychologique qui explore en profondeur la nature humaine avec une mise en scène fine et une tension dramatique. Le Figaro a écrit « Le film glace le sang. Il est d'une subtilité rare, pose des cas de conscience, évite les dilemmes ampoulés. » Tandis que le Parisien estime que A Normal Family prouve que le cinéma coréen recèle encore de pépites. Porté par cet engouement en France, le long métrage Hojingo connaît un véritable succès et a même été sélectionné par le magazine américain Variety parmi les 10 meilleurs films de 2025. Il a également été invité à de nombreux festivals internationaux prestigieux, dont le 48e Festival international du film de Toronto, le 26e Far East Film Festival d'Udine, le 44e Festival international du film de Porto ou encore le 26e Festival du film de Taipei. A Normal Family est un thriller haletant qui suit quatre personnages, chacun guidé par ses propres convictions, dont la vie bascule après la découverte d'images de vidéosurveillance montrant leurs enfants impliqués dans un crime. En Corée du Sud, le film est disponible en vidéo à la demande et sur les services de télévision par Internet. On est déjà dans la galère. Si on installe la climatisation et qu'on la fait tourner, la facture sera ingérable. C'est par ces mots que M. Kim, un commerçant octogénaire qui tient son stand depuis 15 ans, répond avec un sourire amer à la question d'un journaliste de Yonhap News. Pourquoi n'y a-t-il pas de climatisation au marché aux fleurs de Jongno ? Il n'est pas le seul à vivre cette situation difficile. Le marché aux fleurs de Jongno, Jongno Kochizang, une rue dédiée aux stands de fleurs et de plantes en plein air, a été aménagé par la ville de Séoul en 2010. La municipalité avait regroupé environ 150 étals qui occupaient autrefois les trottoirs de ce quartier historique au nord de la capitale. Mais en pleine journée, la chaleur dégagée par l'asphalte brûlant, les voitures qui circulent et les souffles chauds des climatiseurs avoisinants transforment l'endroit en véritable sauna. Alors que la canicule persiste partout en Corée, la plupart des commerces entre Jongno Samga et Jongno Yukga sont équipés de climatiseurs, contrairement aux stands du marché aux fleurs. Le coût de l'électricité n'est pas la seule raison. Les stands, souvent de 5 ou 6 mètres carrés à peine, manquent d'espace. Leur forte concentration rend les risques d'incendie liés aux installations électriques particulièrement préoccupants. Face à une chaleur écrasante, les vendeurs n'ont pas d'autre choix que de transpirer à grosses gouttes et de se rafraîchir à l'aide d'un ventilateur ou un éventail. Dans son stand, Kim Jun-han, commerçant sexagénaire, observe que la température ne descend pas sous les 35 degrés dans la journée. Quand le soleil tape fort, elle peut même atteindre 38 degrés. Mais ici, c'est encore supportable comparé à d'autres endroits, dit-il. Madame Park, 75 ans, est plus inquiète. « Je commence à 7 heures et finis à 18 heures. Même la soupe froide que j'apporte devient tiède en très peu de temps. Et les fleurs n'y résistent pas non plus. Elles fanent rapidement. » Mais ce n'est pas seulement la chaleur qui accable les vendeurs, c'est aussi la crise économique et le manque de clients. Peu de passants s'arrêtent et encore moins achètent. En été, considéré comme une basse saison, beaucoup ferment temporairement. Il faut vraiment être dans le besoin pour continuer à venir ici, confie Madame Song, 64 ans, qui tient son stand depuis plus de 10 ans. Avant de passer à Focus Asie, écoutons ensemble Dog de Kim Won-sung.
Pour bien commencer la semaine, quoi de mieux que les faits divers en provenance d'Asie? Voici Focus Asie, présenté par Oh Hayang.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Asie. Notre première destination est l'Inde, qui devient le premier exportateur de smartphones vers les États-Unis. Sur la scène mondiale du commerce, un changement de rôle majeur vient de s'opérer. L'Inde a dépassé la Chine pour devenir le premier exportateur de smartphones vers les USA. En un an, la part des téléphones indiens sur le marché américain est passée de 13 à 44%. Celle des modèles chinois s'est effondrée de 61 à 25%. De plus, le volume total des smartphones assemblés en Inde a bondi de 240% sur la même période. En toile de fond, la guerre commerciale relancée par Trump qui cible l'empire du milieu avec des droits de douane massifs. Apple se retrouvant prise entre la pression politique et la hausse des coûts de production accélère un virage stratégique vers l'Inde. Escale en Chine, où une vidéo fait polémique sur les réseaux sociaux. On y voit un petit garçon, probablement élève d'école primaire, en train de conduire une voiture sur une route de la ville de Weifang. Assis sur un rehausseur et tournant le volant, il est guidé par son père depuis le siège passager. C'est sa mère qui a partagé la vidéo pour exprimer leur fierté. Cette scène a vite provoqué la colère des internautes et l'intervention de la police. La conduite sans permis est interdite, mais le conducteur est si jeune que les autorités n'ont pu sanctionner que les parents. Malgré une amende de 50 yuan et 3 points de pénalité, ils ne semblent pas avoir pris conscience de la gravité de leur comportement. Direction le Pakistan et la ville de Karachi. Un jeune chameau amputé d'une patte antérieure marche à nouveau grâce à une prothèse conçue sur mesure. Kemi avait été mutilé par son propriétaire en représailles après avoir mangé des cultures. Sur les réseaux sociaux, la photo de l'animal blessé avait suscité une vague d'indignation. Une association locale était alors intervenue pour le prendre en charge. Au-delà des soins vétérinaires, l'équipe a également dû gérer les séquelles psychologiques pour pouvoir l'approcher. Après plusieurs semaines de rééducation, Kémi s'adapte progressivement à sa nouvelle patte. Cette initiative est une première dans le pays pour un animal de cette taille. Et nous nous envolons pour le Japon, où la pratique du pourboire émerge comme une petite révolution culturelle. À Tokyo, dans un restaurant de Shinjuku, au moment de payer, des clients sont surpris de voir leur smartphone proposer de laisser un pourboire. Une application leur permet d'ajouter jusqu'à 25% de l'addition. Résultat, en un mois et demi, l'établissement a récolté 230 000 yens. Ces sommes sont ensuite redistribuées à tout le personnel. Cette application a déjà été adoptée par plus de 900 restaurants du pays. La plateforme de livraison Uber Eats s'y met aussi pour récompenser ses livreurs. Les taxis ne sont pas en reste et les chauffeurs reçoivent 300 à 500 yens, soit entre 1,50 et 3 euros par course. Malgré des revenus supplémentaires et un sentiment de reconnaissance, certains y voient une augmentation des coûts ou redoutent une concurrence entre collègues. Et notre voyage de la semaine se termine au Japon avec une activité à destination des enfants proposée par un centre de découverte scientifique près de Tokyo. Il s'agit d'une chasse aux fossiles où il faut casser les pierres puis tamiser la terre. Et le jeu est pris très au sérieux par certains. Un élève de CM1 a trouvé plus de 300 dents de requin en 4 ans. Un élève de 6e, quant à lui, a eu la chance de déterrer une dent de mégalodon, un redoutable requin préhistorique qui mesurait plus de 15 mètres. Même s'il aurait bien voulu la garder, il est resté exposé au centre. Après 6 années de fouilles, il s'entraîne à reconnaître les espèces. Sous les pierres, les passionnés découvrent le passé de la Terre et peut-être leur future vocation.
Voilà, c'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du lundi. C'était Ijien et Minye Song à la rédaction, Elodie Stanislas au micro et Ohayong à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite un très bon début de semaine à l'écoute de KBS World Radio.